Deux contes par Hilary Voronka. Premier conte, un peu d'ordre. « Vous laissez traîner vos choses sur votre table, » me disait souvent le chef de service assis en face de moi. « Avant votre départ, le soir, vous devriez ranger vos papiers. » D'autres fois, le chef ne faisait que me jeter un regard qui me glaçait presque le sang. Il ne m'adressait plus de reproches, mais son regard en disait assez long. Autour de moi, les lettres, les dossiers, les registres de comptes, les bordereaux de quittances s'entassaient de plus en plus. Les tiroirs en étaient pleins. Dans la poussière qui recouvrait la table rongée par des années de travail et d'usure, je retrouvais parfois une note portant une date ancienne me rappelant quelque lointain événement de jeunesse. « Et il faudra quand même ranger toutes ces lettres, faire une table propre et nette, » me disais-je souvent. Mais les jours passaient. D'autres travaux urgents appelaient mon attention, et je n'arrivais pas à rompre l'épaisse toile que l'araignée du désordre avait tissée. Un soir, que les autres employés étaient déjà partis et que je me trouvais plongé dans la boue d'une addition interminable, le chef, qui avait l'air depuis quelque temps de ne plus se soucier de ma confusion, me dit soudain en désignant la table « Dieu sait ce que je trouverai, si je jetais un regard dans ce fouillis indescriptible. » C'était un soir pluvieux de fin d'été. La pluie qui éclaboussait les fenêtres ouvertes n'arrivait pas à diminuer la forte chaleur qui régnait dans la chambre. À travers l'abat-jour poussiéreux des lampes, la clarté filtrait faiblement. Un silence épais comme une rivière de colle circulait entre le dehors et l'intérieur. La haute stature du chef se dressait maintenant à mes côtés et je regardais, humilié, peiné, le tas de papiers et de dossiers qui gisaient sur la table. « Pourquoi gardez-vous toutes ces pièces ? Ne vous ai-je pas dit que les dossiers doivent être rangés à leur place ?» Il y avait de la malice dans ses yeux. On eût dit qu'il prenait du plaisir à éveiller la conscience de ma honte et de mes fautes. Je restais assis sur ma chaise, la tête baissée, les bras ballants. « Voyons un peu !» ajouta encore le chef, et en se baissant brusquement, il ouvrit le tiroir du milieu. Ce mouvement avait été si inattendu que je fus presque renversé en arrière. Et quel ne fut pas mon étonnement, lorsque le chef retira du tiroir un cheval de la grandeur d'un jouet d'abord, mais qui, posé sur le plancher, prit aussitôt ses proportions normales. Il remplissait la pièce, il piaffait et ruait, il secouait sa crinière, il heurtait les chaises et les tables. « Ça alors !» s'exclamait le chef, « ça dépasse tout !» Il tournait le dos au cheval, et son sourire malicieux faisait briller ses regards. « Voyons encore !» Et il ouvrit le tiroir de droite. Aussitôt un arbre surgit. Les racines s'enfoncèrent dans le plancher, son tronc, aux ramures puissantes, s'éleva et creva le plafond. « Avez-vous pensé aux dégâts ?» J'essayais de murmurer des excuses, mais rien d'intelligible ne sortait de ma gorge. J'avais bien reconnu l'arbre. C'était celui que j'aimais le plus devant le perron de la maison campagnarde de mon enfance. Comme autrefois, les oiseaux faisaient leur tintamarre dans le feuillage. Ils avaient dû être effrayés par cette brusque découverte. La lumière des lampes, bien que pâle, avait interrompu leur sommeil. Pouvais-je me douter que cet arbre, tant aimé, à l'ombre duquel je me réfugiais quelquefois dans mon souvenir, pouvais-je me douter qu'il fût là, à portée de ma main, parmi des lettres d'affaires, parmi les dossiers d'huissier et d'avoué ? Je vous assure que je n'en savais rien, réussis-je enfin à articuler. Le regard du chef me fit comprendre qu'il n'accordait aucun crédit à mes paroles. Le cheval s'était couché au pied de l'arbre. Je le reconnus lui aussi. C'était celui sur lequel j'étais monté à 14 ans, heureux de faire une entrée fière dans la ruelle où habitait une adolescente de mon âge et que j'aimais éperdument. J'avais choisi ce cheval dans l'écurie de l'entreprise forestière où mon père était ingénieur à cette époque. C'était à la veille de mon départ pour la ville où je devais être mis en pension pour le collège. Je passai plusieurs fois devant la maison de l'adolescente. La fenêtre ne s'ouvrit pas, mais je devinais le tremblement du rideau derrière lequel la jeune fille aimée devait guetter. Le lendemain, je partis pour la ville. Depuis, j'ai changé de pays, de vision, de climat. Et voici que le cheval de mon jeune orgueil m'avait suivi. Je m'approchais de lui, je caressais son cou nerveux. La crinière tremblait comme une eau sous le vent. L'arbre chantait de toutes ses feuilles. Je me suspendis à une branche, et avec une souplesse dont je ne me croyais plus capable, j'y montais. Les fenêtres s'étaient éloignées. La rue, avec sa lumière de pluie, se couvrait d'un voile. « Je ne veux plus de ces choses-là, » me dit le chef. « Ce n'est pas une écurie ici, ce n'est pas un lieu vague. » C'était peut-être la peur qui me faisait grimper. J'avais atteint maintenant les branches les plus hautes. La voix du chef s'affaiblissait de plus en plus. Je baissais la tête pour le regarder et je constatais qu'il se rapetissait à vue d'œil. Maintenant, il était à peine de la grandeur de ma main. « C'est le comble de la négligence !» criait-il, mais moi je l'entendais à peine. Bientôt, je ne le vis plus. J'étais en haut de l'arbre, près de sa cime, et les vents murmuraient autour de moi et la nuit déversait ses effluves de parfums. Les oiseaux, effarouchés d'abord, finirent par se poser sur les branches à mes côtés. Ce furent vraiment de belles heures. Le lendemain, ma table était dans un ordre parfait. « Vous voyez que vous pouvez mettre de l'ordre ?» me dit le chef en clignant des yeux. Profitant d'un moment où il était sorti de la pièce, j'ouvris, curieux, les tiroirs. Il s'en dégagea une odeur de résine, mais tous les papiers étaient rangés. Une chose froide me fit retirer la main. J'en sortis en fer à cheval, et c'est avec celui-ci entre les doigts que me trouva le chef à son retour. « Un fer à cheval, ça va encore !» me dit le chef, « ça peut porter bonheur. Vous n'allez tout de même pas vous mettre à la recherche du cheval qu'il a perdu. » Et comme pour me montrer qu'un peu de désordre ne l'effrayait pas, il mit le fer parmi les dossiers sur la table. « Ce sera un excellent presse-papier. » Deuxième conte. Ma chambre. Un chemin passe au milieu de ma chambre. Oui, un chemin traverse ma chambre. Mon lit se trouve entre deux portes et ces deux portes sont reliées par un chemin. J'ai aussi une fenêtre. La fenêtre et une des portes donnent sur une terrasse située au quatrième étage d'un vieil immeuble. Cette terrasse est assez large pour contenir un petit jardin, quelques arbustes, un poulailler et un clapier. L'autre porte ouvre sur le palier d'un escalier spacieux. La terrasse est tournée vers le midi. La porte de l'escalier est du côté du nord. Mon lit est à côté au mur de l'ouest. À l'est, au pied d'un mur vide, se trouve une petite table avec des livres et des manuscrits. Ce n'est qu'après quelques semaines d'habitation que je me suis aperçu qu'un chemin traversait ma chambre. Au début, lorsque je rentrais de mes courses en ville, je trouvais parfois quelques brins d'herbe ou de légumes traînant sur le plancher. Mais sans m'attarder à étudier la provenance de ces restes, je me plongeais dans la lecture de quelques livres ou bien, allongé sur le lit, je rêvais les yeux jetés loin au-dessus de ma tête, comme deux petits ronds de fumée montant au plafond. Certes, le chemin était caché dans les crevasses du plancher et ne se montrait qu'en mon absence. Mais petit à petit, habitué à mes gestes et à ma voix, il allait sortir de sa cachette. Un soir que j'étais rentré plus tôt et que je profitais des dernières lueurs du jour pour lire, couché sur le lit, un poème du temps passé, la porte de l'escalier s'ouvrit brusquement et une grande femme traversa en hâte ma chambre, les bras chargés d'herbe, et sortit par la porte donnant sur la terrasse. Là, j'entendis remuer des planches. Elle apostropha deux ou trois fois. « Oh, les petits diables !» et retourna par le même chemin sans faire aucune attention à moi. Je compris ensuite que c'était une des voisines qui portait à manger au lapin de la terrasse. Les deux portes étaient maintenant ouvertes, et comme un quart de lune que des nuages se laissent dessiner, apparut, pâle, le petit chemin. Peu de temps après, la grande femme, une femme de taille plus petite, accompagnée d'une fillette, passa dans ma chambre sans me voir ou tout au moins sans me regarder. La femme, qui devait être la mère de la fillette, avait le tablier plein de petits pois. « Il faudra nous dépêcher, » disait la femme, « c'est le moment de planter les petits pois. » Depuis ce soir-là, le chemin ne se gênait plus. Il se montrait en entier avec l'éclat de ses petits cailloux sous les étoiles. Étendu sur mon lit, je voyais tous les jours des enfants et des femmes le traverser, aller des ténèbres de la maison vers les plantations de la terrasse. Des jeunes hommes, un cahier ou un livre sous le bras, se promenaient aussi par ma chambre et se perdaient ensuite en rêvant ou en causant sur les allées de la terrasse. En regardant par la fenêtre, je constatais que celle-ci était devenue presque aussi vaste qu'un parc. De petits lapins échappés du clapier fuyaient ou jouaient sur les allées. Sans peur, ils s'approchaient des visiteurs ou bien faisant les veaux sur les pattes de derrière. Ils agitaient, on eût dit en souriant, les pattes de devant. Des poulets picoraient tranquillement au pied des arbustes. Le chemin de ma chambre était en plein essor. Il se donnait du cœur. Il dévoilait sa présence entière, sans craindre de m'étonner ni de me fâcher. C'était déjà un beau petit chemin que la lumière de la lune couvrait d'une couleur romantique. mais même le jour, le chemin se dessinait maintenant sans hésiter, dans ma chambre. Personne ne se gênait plus. Il y avait un va-et-vient continuel entre les portes, tantôt pour porter à manger aux bêtes, tantôt pour étendre le linge, tantôt pour appeler quelqu'un se trouvant en bas de la rue, tantôt rien que pour prendre l'air ou pour respirer le parfum des roses épanouies sur la terrasse. Qui se serait préoccupé de ma présence? Qui y aurait pensé encore? Bien sûr, mes travaux, mes lectures en souffrirent. Je n'étais plus chez moi. J'habitais au beau milieu d'une route. Car le chemin avait pris de l'ampleur, il se portait à merveille. Il était spacieux et aéré entre les deux portes, maintenant ouvertes. Un soir, j'entendis un tintement de clochettes, des sifflements de fouets, des hennissements de chevaux. Par la porte de la terrasse, une calèche pleine de verdure s'avançait sur le chemin de ma chambre. Des jeunes filles et des jeunes hommes y riaient et chantaient. Les chevaux se cabrèrent un instant au milieu de ma chambre et ensuite ils s'enfuirent par la porte donnant sur l'escalier. Mais, longtemps après, l'air résonnait encore des rires et du claquement des fouets. La route, qui n'avait été au début qu'un petit sentier reliant le jardin de la terrasse au reste de la maison, avait pris conscience maintenant de sa grandeur et de sa force. C'était un chemin large, heureux de porter une voiture pleine de l'éclat des saisons. Mon lit, de plus en plus petit, s'aplatissait contre le mur. Après la calèche, des groupes d'excursionnistes traversèrent ma chambre. Un convoi de noces vint ensuite à passer et le cheval piaffait et les pistolets claquaient joyeux dans l'air nocturne. À l'aube, la grande agitation de la route se calma un peu. Un lapin curieux, mais craintif, s'avança par la porte de la terrasse et s'arrêtant au milieu du chemin, il se mit à me considérer de ses petits yeux rouges. Le chemin lui-même s'amusait de cette minuscule présence, après le passage important des charrettes de la nuit. Mon regard croisa le regard du petit lapin. Nous étions tous les deux étrangers à la vie et au mouvement se tissant autour de nous. Lui, prisonnier du jardin suspendu, moi, dans une chambre qu'un chemin avait embellie de plus en plus, comme une rivière qui traîne tout sur son passage. Et je m'attendais d'un moment à l'autre que mon lit, la petite table, les murs, la chambre entière, soient entraînés par la route qui maintenant s'étendait, puissante, des deux côtés pour traverser la maison et la nuit et se perdre dans les étoiles. C'était Deux Contes par Hilary Boronka.